Nous allons garder un moment de silence. Oh, alléluia. C'est devant toi que nous nous tenons pour te dire merci pour la victoire que tu nous as acquise à la croix. Merci pour le sang versé, car dans ton sang, il y a le pardon, il y a la réconciliation. Dans ton sang, il y a la victoire. Seigneur, merci. Merci, ô Dieu, pour ta victoire sur le monde. Ta victoire sur le monde des ténèbres. Ta victoire sur tout esprit qui ne professe pas Christ. Seigneur, merci. Merci pour tout. Parle-nous. Parle-nous maintenant. Révèle-nous, Seigneur, toutes ces vérités sur ton Église. Vérité dont nous avons besoin pour demeurer dans toutes les bénédictions que tu as promises à ton Église, celles que tu bâtis par ton esprit et au moyen de ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous rasseoir. Bien. Nous allons donc, à partir de ce dimanche, commencer notre série d'enseignements sur l'Église de Jésus. Comme nous l'avons annoncé et comme vous le savez, notre thème est formulé de manière interrogative. L'Église de Jésus-Christ, est-ce Bethel ou Beth-Aven? Nous ne savons pas combien de temps cette série d'enseignements prendra, peu importe le temps que cela prendra. L'essentiel, le but, l'objectif ultime, mes amis, de cet enseignement, c'est de nous amener à vivre avec une vision de l'Église telle que le Seigneur lui-même l'a enseignée, et l'enseigne encore à travers sa parole, mais aussi la vision de l'Église, l'image de l'Église est telle que les apôtres l'ont décrite et la décrivent encore dans les Saintes Écritures. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons, aujourd'hui c'est donc le premier message, le premier enseignement par rapport à ce thème. Et pour cela, nous allons lire un texte bien connu, à savoir Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 18. Et puis ensuite, nous irons lire dans Éphésiens 5, versets 25 à 27. Alléluia. Matthieu 16, 13 à 18. Nous lisons. Jésus arrivé sur le territoire des Césarées de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire ce n'est pas ta puissance cérébrale, ton intelligence, ta connaissance théologique, ta capacité intellectuelle qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, poursuit-il, et c'est donc le verset qui va... sur lequel va reposer le gros de notre enseignement. Et moi, je te dis que tu es Pierre, en grec Petros, et que sur cette pierre, sur cette Petra, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts, les portes du Hadès, ne prévaudront pas contre elle. Et enfin, Éphésiens 5, verset 25. Rassurez-vous, les maris qui n'aiment pas leur femme, il n'est pas question de l'amour conjugal. Marie, aimez chacun votre femme. C'est la suite qui est donc en rapport avec notre thème. Comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Amen. Comme annoncé, nous allons donc, à partir d'aujourd'hui, démarrer notre série d'enseignements sur l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons attirer notre attention, toute notre attention, sur l'Église de Jésus-Christ, celle à propos de laquelle il dit « Je bâtirai mon Église et rien, absolument rien, même pas les portes du Hadès, ne prévaudront contre elle, ne l'emporteront contre elle. » Tout au long de cette série d'enseignements, frères et sœurs, il ne sera donc pas question d'une dénomination religieuse quelconque, d'un mouvement ou de groupement religieux, quel qu'il soit, puisqu'on en trouve beaucoup, qui tous se réclament du Christ, de groupements religieux qui revendiquent souvent pour eux seuls l'appellation d'Église. Et par rapport à cette appellation, vous le savez tous, certains groupements religieux vont même jusqu'à jeter l'anathème sur les autres, car d'après ce groupement religieux, eh bien les autres ne peuvent pas utiliser le mot Église pour désigner leur rassemblement, pour désigner leur mouvement. Et pour ces groupements religieux, pour certaines dénominations qui se sont accaparées de ce terme, eh bien, quand ces groupements religieux entendent parler d'une église ou quoi, eh bien, ils n'hésitent pas à anathémiser, à jeter l'anathème sur leurs autres, car pour eux, eh bien, les autres usurpent ce titre d'église. Eux seuls, prétendent-ils, sont l'église et sont habilités à parler de l'Église et au nom de l'Église. Malheureusement, cette conception erronée et sectaire a fait beaucoup de victimes, a entraîné beaucoup de persécutions parmi les chrétiens tout au long de l'histoire de l'Église. Mais dans cette série d'enseignements, il va être question de l'Église de Jésus-Christ telle que la parole de Dieu l'a décrite. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Église de Jésus telle que nous la trouvons décrite, peinte par les mains du Seigneur au travers des écrits du Nouveau Testament. Il est important que nous parlions de cela, car aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent plus à quoi le Seigneur a fait allusion ou fait encore allusion lorsqu'il parle de bâtir son Église, lorsqu'il déclare « Je bâtirai mon Église », beaucoup ne savent pas ou ne savent plus à quoi il fait allusion. Parce que ce mot « Église », ces termes, recouvrent pour la plupart d'entre nous toute une foule de notions différentes. Au point où, quand il est question de l'Église, pour beaucoup d'entre nous, mes amis, beaucoup de nos contemporains, il y a de quoi y perdre son latin, comme on dit. Quand on parle de l'Église, pour beaucoup c'est incompréhensible. Ils voient tout de suite telle dénomination, telle structure religieuse, etc. Chacun de nous, de par son appartenance dénominationnelle, de par son appartenance à tel ou tel groupement religieux dit chrétien, chacun de nous, du fait d'évoluer dans un mouvement qui se réclame de Jésus, ou dans telle ou telle autre institution dite chrétienne, beaucoup d'entre nous, ou chacun d'entre nous, a fini par développer une image de l'Église. Mes amis, une vision de l'Église qui est souvent, trop souvent, aux antipodes de l'image de l'Église telle qu'elle est décrite par la parole de Dieu,
telle que nous la trouvons dans l'enseignement du Seigneur lui-même, mais aussi dans l'enseignement des apôtres. Et nous allons voir, mes amis, tout au long de cette série d'enseignements, c'est que toute assemblée dite chrétienne est appelée à être. Comment doit-elle fonctionner, voyez-vous? Et en lançant cette série d'enseignements, je ne voudrais pas, mes amis, conduire un réquisitoire contre telle ou telle autre assemblée dite chrétienne, tel ou tel autre mouvement chrétien. Le but, mes amis, c'est que nous arrivions à comprendre ce que la Bible entend par Église, ce que Jésus entend par Église, ce que les apôtres ont entendu par l'Église, ce que la Bible nous dit, d'abord dans l'enseignement de Jésus-Christ lui-même, le chef de l'Église, la tête de l'Église, et à la suite de Jésus, dans l'enseignement des apôtres et dans les différentes épîtres, avoir une image claire. En d'autres mots, nous voulons redonner à l'Église ses lettres de noblesse. Car vous êtes sans ignorer que l'Église de Jésus est de plus en plus soumise à toutes sortes de pressions de la part du monde. L'Église du Christ, et en particulier chez nous ici, à Kinshasa, et même à travers toute la République, est traversée par toutes sortes de crises morales, des crises spirituelles. Et par rapport à ça, il est plus que temps que vous et moi, mes amis, nous revenions à la parole, car dans la plupart des cas, l'image que les gens ont de l'Église, la vision que les gens ont de l'Église est souvent, très souvent, à des années-lumière de l'image telle que nous la trouvons dans l'enseignement du Maître, de celui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Oh, alléluia! Il ne bâtit pas l'Église d'un homme, d'une tribu, d'un pays, d'une congrégation, d'une institution quelle qu'elle soit, mais il bâtit son Église. Puisque c'est son Église, alors, mes amis, nous avons tout intérêt à savoir ce que lui entend par son Église. Qu'est-ce que les apôtres ont compris lorsque ils ont parlé de l'Église, lorsqu'ils ont prêché, lorsqu'ils ont tout fait pour implanter des églises un peu partout dans le bassin méditerranéen? Comprendre. Il y a un préalable, voyez-vous, un préalable pour une bonne compréhension de l'Église de Jésus-Christ. En effet, mes amis, pour bien comprendre ce qu'est l'Église de Jésus-Christ, celle qu'il bâtit par son esprit et au moyen, non pas des décrets conciliaires, mais au moyen de sa parole, pour comprendre la nature morale et spirituelle, la nature singulière de l'Église, pour comprendre sa mission ici-bas et ses rapports avec le monde, il faut absolument, et ça c'est un préalable, il faut résolument se mettre à la seule école de l'Écriture sainte, à la seule école de la parole de Dieu, à la seule école de la Bible. Oh, alléluia! Voilà pourquoi je vous invite à lire, à relire encore la parole de Dieu, et en particulier le Nouveau Testament, pour mieux comprendre, pour développer une image qui soit adéquate de cette structure, mes amis, particulière et singulière, que la parole de Dieu appelle l'Église. Nous devons donc être à l'école de la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu nous enseigner, et non pas ce que les uns et les autres ont compris par rapport à l'Église, car la compréhension des hommes a fini par amener les gens sur des routes détournées, sur des routes qui conduisent les gens, hélas, très très loin du Seigneur. Nous devons tous savoir que c'est dans les directives, c'est dans les recommandations données par le Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres, nous devons comprendre que c'est dans les renseignements que nous trouvons dans le livre des Actes des apôtres et dans les épîtres que nous pouvons comprendre ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Quelle est sa raison d'être ici-bas? Car cette Église lui est chère, nous l'avons lu. Pour elle, il s'est sacrifié. Pour elle, mes amis, il a été jusqu'au bout, jusqu'à la pire des humiliations. Et oui, c'est dans les déclarations infaillibles de Jésus-Christ et dans l'enseignement sublimissime, incomparable des apôtres, enseignement que nous trouvons dans le Nouveau Testament, que nous sont révélés le modèle de l'Église, c'est-à-dire l'Église telle que Dieu la veut, mais également c'est donc dans les déclarations du Seigneur et dans l'enseignement des apôtres que nous est révélée la norme à laquelle toutes les églises, auxquelles les églises de notre temps, comme de tous les temps, la norme, mes amis, à laquelle toutes ces églises doivent se conformer. Nous ne sommes pas appelés à marcher selon ce que les uns et les autres, selon ce que tel ou tel autre théologien pense, mes amis, de l'Église, de sa nature, de sa mission, de ses rapports avec le monde. Mais nous devons nous tourner vers la parole de Dieu. C'est là que nous trouvons la norme à laquelle toute assemblée qui se réclame du Christ doit se soumettre et doit se conformer. Et c'est là, dans la parole de Dieu, que nous trouvons le modèle par excellence de l'Église. Il n'est pas du tout question de bâtir l'Église selon sa culture, selon sa tradition, selon sa compréhension. C'est vrai, nous sommes des êtres culturels, voyez-vous. Donc, dans tout ce que nous faisons, il y a toujours un peu de ce que nous sommes. Mais au-delà de nos cultures, au-delà de nos traditions, nous devons tout faire pour bâtir l'Église selon le modèle biblique, alléluia. Selon le modèle tel que les apôtres nous l'ont laissé. En cela, le livre des Actes reste normatif lorsqu'il est question de la nature de l'Église, lorsqu'il est question de sa nature, lorsqu'il est question de sa mission, lorsqu'il est question de ses rapports avec la politique, que sais-je. Les temps sont mauvais. Il est plus que temps que nous revenions à la parole de Dieu. Les temps sont mauvais, mes amis. Regardez tout autour de nous, que des scandales. Que des scandales au point où certains ont été tellement déçus qu'ils ne veulent plus entendre parler d'église. Oui ou non? Ces choses devraient et doivent nous interpeller. Se conformer à la norme apostolique. Se conformer à l'enseignement de Jésus-Christ lui-même qui a dit « Je bâtirai mon église ». Si vous voulez vous transformer en bâtisseur, en architecte, bâtissez ce que vous voulez. Mais n'essayez pas de bâtir l'Église sans la révélation de Jésus-Christ, sans connaître la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le drame pour nous, la tragédie aujourd'hui, c'est que beaucoup d'opportunistes se sont levés pour ouvrir ça et là des petites assemblées soi-disant chrétiennes, des églises à gauche à droite. Comment ces gens, ces opportunistes, ces troubadours des ténèbres, dirigent-ils ces églises? Chacun y va de sa conception. Chacun y va de sa philosophie. Chacun y va de sa culture. Aujourd'hui, l'église est devenue un lieu où tout peut se faire. Alors qu'autrefois, l'église transpirait la sainteté. Alors qu'autrefois, l'église est un modèle de justice. Alors que l'Église autrefois était un lieu où la gloire du Seigneur se manifestait. Alors que l'Église était un lieu où les gens allaient et puis repartaient avec le salut. Repartaient complètement délivrés. Repartaient libres. Parce qu'ils avaient trouvé Jésus à l'Église et dans l'Église. Aujourd'hui, que trouvons-nous? On va trouver l'homme. Tout tourne autour de l'homme. Des hommes en mal d'aventure, en mal de reconnaissance, voyez-vous, décomplexés, qui essayent de trouver dans le ministère un moyen de se valoriser. qui essaie de trouver dans le ministère un moyen de s'enrichir. Nous allons dénoncer ces choses. Gloire à Dieu. Et si à partir de ce que nous allons voir, vous arrivez à la conclusion que votre église est bétaven, alors, mon frère et ma sœur, vous devenez responsable devant Dieu. Ou soit vous restez dans bétaven, comme nous allons le voir, avec toutes les conséquences que cela entraîne, ou alors vous dites non, mon âme n'a pas de prix. Je vais à l'église qui est Bethel, qui est la maison de Dieu. En regardant tout autour de nous, en regardant la manière dont les églises fonctionnent aujourd'hui, mes amis, un peu partout, non seulement ici chez nous, à Kinshasa, ici chez nous au Congo, et même au-delà, pourrions-nous vraiment dire que ces églises sont conformes au modèle apostolique? Pouvons-nous vraiment dire que ces églises se soumettent, mes amis, à la norme de la parole de Dieu? Sont-elles soumises à cette norme morale et spirituelle, à cette connaissance vitale telle que nous la trouvons au pied du Seigneur? À cette question, vous êtes bien placé pour savoir que beaucoup d'églises ne répondent plus aux critères bibliques et apostoliques, comme nous le verrons. Car un simple regard objectif et sincère suffit pour se rendre à l'évidence que nos assemblées, que nos églises sont loin de refléter le modèle biblique, le modèle apostolique. Un état des lieux de ce qu'il se passe dans les églises aujourd'hui peut nous permettre et va nous permettre, mes amis, de voir où nous en sommes par rapport à l'image, par rapport à la vision de l'Église, telle que nous la trouvons dans la parole de Dieu. Lisez la parole. Lisez encore la parole. Lisez toujours la parole. C'est elle qui a la capacité de vous mettre à l'abri de cet esprit de séduction, d'égarement, qui agit aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées, nous le verrons, qui manipule des responsables des églises. Oui, un état de lieu va nous faire voir tout de suite, ou nous fait voir tout de suite, que beaucoup d'églises ne fonctionnent plus, ou n'ont jamais fonctionné, car il y en a qui sont nés par la seule volonté de l'homme. Voyez-vous, une dame m'a parlé il y a encore quelques jours d'une église qui a vu le jour pas loin de chez elle, quelque part en Binza. Les gens ont commencé à venir, le pasteur prêchait et tout ça. Au bout de quelque temps, le pasteur a engrossé une choriste. Quand l'église a su cela, l'église s'est disloquée. Les gens sont partis. Ils sont allés dans une autre église. Et puis le pasteur, finalement, a suivi les gens, cette fois-ci pour s'asseoir dans cette église-là. Vous voyez, ce sont des choses qui doivent nous interpeller, qui doivent nous faire pleurer. Les gens ne viennent pas à l'église, les filles ne viennent pas à l'église pour repartir avec des grossesses, des responsables d'église. Il suffit de soumettre nos assemblées, nos églises, à une sorte de radioscopie morale, à une sorte d'IRM spirituel, pour se rendre compte que nos assemblées sont vraiment malades. Pour certaines, sont mortes. Il n'y a plus d'assemblées. Certes, les gens ont le nom de Jésus dans leur bouche. Certes, le tam-tam, la batterie est toujours là. Certes, la chorale est toujours là. Mais il y a très longtemps, le Seigneur est parti. Il ne peut pas rester là où l'homme règne. Il ne peut pas rester là où le système règne. Il ne peut pas rester là où le mensonge règne. Il ne peut pas rester là où il y a la tromperie règne. Là où il y a la manipulation. Là où les esprits menteurs, nous le verrons, les esprits de Jézabel, de Béliel, tout ce que vous voulez, inspirent de faux prophètes. Là, Dieu ne peut pas rester. Il ne peut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Voyez-vous, vous pouvez vous appeler archevêque ou évêque. Vous pouvez vous appeler apôtre ou super apôtre. Vous pouvez vous appeler pasteur ou hyper pasteur. Ce n'est pas ça qui va impressionner Dieu. Ce n'est pas ça qui va garder Dieu dans l'assemblée. Ce qui garde Dieu dans l'assemblée, c'est la vérité qui est prêchée. C'est la parole qui est prêchée. L'IRM, pour ceux qui ne le savent pas, l'imagerie par résonance magnétique, lorsqu'on veut voir à l'intérieur du corps, voyez-vous, avoir de vue en deux ou trois dimensions de ce qu'il y a à l'intérieur du corps, on recourt à l'IRM, imagerie par résonance magnétique. Voyez-vous, et nous allons, tout au long de cette série d'enseignements, soumettre nos assemblées à l'IRM spirituel. Alléluia. Pour voir si vraiment tous les organes à l'intérieur de nos assemblées sont en bonne santé. Voyez-vous? Sous l'influence du monde et du diable, nos églises se fossilisent, nos assemblées se momifient et deviennent de chambres froides. Lieu de la congélation spirituelle et morale. Bref, sans le Seigneur, sans le modèle biblique et apostolique, sans la soumission à la norme biblique, à l'éthique apostolique, laissez-moi vous dire une chose, c'est la mort assurée pour l'Assemblée. On peut manipuler les gens en leur donnant des fausses prophéties, en recourant à toutes sortes de techniques de psychologie persuasive ou suggestive, peu importe. Les gens pourront venir, ils pourront ressentir quelque chose. Ils pourront s'agiter, se trémousser, mais sans que la vie de Dieu y soit. Attention, Jésus revient bientôt. Attention, votre âme n'a pas de prix. Ne la mettez pas entre les mains de n'importe quel serviteur, soi-disant de Dieu. Soyez sûr de là où vous allez. Soyez sûr de là où vous mettez les pieds. Vous risquez de mettre vos pieds dans les gueules des caïmans des ténèbres. Vous risquez de marcher sur des vipères, sur des aspics, sur des cobras des ténèbres, dont les morsures ne pourront qu'entraîner votre mort spirituelle et morale. Oui, l'état spirituel et moral de nos églises est à déplorer. Laisse à désirer un état médiocre. Mes amis, un état qui ne répond pas aux attentes du Seigneur. D'où la question pertinente à chaque assemblée, à chaque église. D'où la question pertinente à chacun de nous. L'Église telle que nous la voyons aujourd'hui, telle que nous la vivons aujourd'hui, est-ce Bethel ou alors Bethaven? Voilà la question qui vaut plus que son pesant d'or, car il y va de chacun de nous, comme nous le verrons. L'Église est un cadre où les gens viennent pour repartir complètement changés. Je suis arrivé dans cette Église en 84. C'était au mois de décembre, nous étions là, j'étais un converti. Évidemment, j'avais un arrière-plan soi-disant chrétien, mais j'étais un converti, je ne connaissais rien de Dieu, à part quelques notions évasives reçues au cours de religion, comme beaucoup d'entre nous et tout ça, sans plus. Je suis venu tous les mois de décembre. 84. Au bout d'un certain temps, la parole avait commencé à faire des effets en moi. Mais comme j'étais en but de moi-même, bon, nous, on n'était pas nombreux, c'était juste là, tout cela était fermé. Eh bien, je faisais tout. Il y a des moments où le pasteur prêchait, il dénonçait ce que mon ami et moi, qui m'avait amené ici à la borne, on faisait la veille. Des choses qui n'était pas pour la gloire de Dieu. Et le pasteur dénonçait ça. Au point où, je me souviens avec mon ami, que je salue s'il me suit,
Il va se reconnaître.
Nous sommes dit, mais c'est moi le premier qui lui ai dit, mais dit, mon ami, c'est pas possible. Ton ami, le blanc, là, c'était Aurelio da Silva, qui nous amenait tous les dimanches ici à l'église. Ils allaient nous chercher. Je dis, mais ton ami, le blanc, là, le portugais, là, n'est pas sérieux. Il va dire au pasteur Vernon tout ce que nous faisons en semaine. Mais c'était l'Esprit de Dieu qui travaillait. Décembre passe. Nous entrons dans l'année 85. Janvier. Là, la parole avait commencé à faire ses effets en moi. À chaque fois que le pasteur prêchait, je m'asseyais souvent quelque part. Eh bien, je m'inclinais, je pleurais, je ne voulais pas que les gens voient mes larmes. Je pleurais parce que je réalisais combien le Seigneur m'aimait. Et combien ma vie était abominable, horrible à ses yeux. Je faisais tout pour qu'on ne voie pas mes larmes. Début 85, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, et la dernière semaine, alors là, j'ai pris la résolution de recevoir Jésus. C'était un dimanche, je me souviens comme si c'était hier. Après le culte, le pasteur avait prêché. Nous sommes repartis avec notre ami Aurelio. S'il me suit aux dernières nouvelles, il serait rentré au Portugal ou en Hollande comme sa compagne d'origine hollandaise. Son frère qui faisait le pilotage en Afrique du Sud était venu. Et il était venu avec nous à l'église et nous sommes rentrés à la maison. Nous habitions au golf là. Et ils nous ont déposés. On leur a proposé de manger un petit bout, de boire, je ne sais pas, un verre de coca. Et tout, ils ont dit non, non. Et là, Aurélie m'a simplement demandé, il dit, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Oh là là, je t'ai préparé. Je me suis effondré dans les larmes. J'ai pleuré comme une madeleine, comme on dit. Hein. Des larmes sont tombées. Et pendant que je pleurais, j'ai vu ma vie défiler comme les images dans un kaléidoscope. Différentes étapes de ma vie ont défilé devant moi et à chaque fois j'ai réalisé combien Dieu m'aimait malgré tout cela. J'ai pleuré, j'ai crié à Jésus. Il m'a fait recevoir Jésus. J'étais à genoux. Quand je me suis relevé, c'était un autre homme. Alléluia. Autrefois, on venait à l'église avec les fardeaux. Et les fardeaux restaient à l'église, on repartait complètement libéré. Mais aujourd'hui, les gens viennent avec les fardeaux, ils en ramassent encore davantage, et ils repartent complètement surchargés. C'est anormal. Église de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce Bethel ou Bethaven? Avant de répondre à cette question très rapidement, il faudra d'abord que nous examinions en détail, que nous passions en revue l'Église de Jésus-Christ et ce, quant à la manière, quant à sa nature, quant à la manière dont elle se présente en nous, voir comment les Églises aujourd'hui fonctionnent, voir leur état moral et spirituel, et tout ceci à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est qu'après cette espèce de scanner ou de radiographie, comme vous voulez, nous pourrions ainsi dresser le portrait de nos assemblées, des assemblées que vous fréquentez, leur profil moral et spirituel. C'est ainsi que nous pourrions avoir une radiographie complète de nos assemblées. Alors nous verrons si notre Église, celle que je fréquente, si notre Église, celle que nous fréquentons, si notre structure est vraiment Bethel ou Bethaven. Mais avant toute chose, revenons à nos deux passages de Matthieu 18, plutôt 16, et d'Éphésiens 5. Dans ces deux textes, dans ces deux passages, comme dans d'autres que nous lirons tout au long de cette série d'enseignements, eh bien, ces deux textes, ces deux passages mettent en évidence l'importance, mes amis, de l'Église, sa valeur unique et singulière aux yeux de Dieu, voyez-vous, mais aussi l'importance de l'Église pour nous. Pourquoi j'ai parlé de moi? C'est parce que je trouvais une petite Église qui reposait sur la parole de Dieu, qui était soumise à l'autorité de la parole de Dieu. J'ai trouvé une petite assemblée où la vie de l'Esprit coulait. Et résultat, je suis reparti complètement transformé. Alléluia. Et donc, l'Église n'a pas seulement d'importance aux yeux de Dieu, mais aussi pour chacun de nous, car c'est le lieu où nous tissons des vraies amitiés, des amitiés saines. Alléluia. L'Église est le lieu où nous sommes appelés à croître, à découvrir les talents que le Seigneur nous a donnés, le don que Dieu nous a donné pour le mettre au service des autres. C'est à l'Église que nous pouvons grandir dans la connaissance. Donc vous voyez, mes amis, l'Église n'est pas seulement importante aux yeux de Dieu, n'a pas seulement de valeur aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux de chacun de nous, pour nous. C'est pourquoi vous avez le devoir de veiller sur la bonne santé de votre assemblée ici à la borne. Vous avez le devoir de veiller sur le bon fonctionnement. Voyez-vous, maintenant je ne vous demande pas de devenir des géomètres spirituels, de devenir imbu de vous-même, rongé, gangréné par l'orgueil, la main dans la poche, pasteur en tant que géomètre spirituel. Pasteur en tant qu'architecte spirituel, selon les normes bibliques, je vois que la manière dont la structure de l'Église est faite n'est pas conforme à la parole de Dieu. Non, le but ce n'est pas d'étaler vos connaissances, vous les gardez pour vous. Le but c'est que quand vous vous levez, que ça soit pour contribuer à la construction. Alléluia. Alors, premier point, importance de l'Église et sa valeur pour Dieu. Nous l'avons lu dans Matthieu. Le Seigneur dit à ses disciples, « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, oh alléluia, le Fils du Dieu vivant. » Quelle déclaration merveilleuse! Quelle confession puissante! Tu es le Christ, tu es le Messie, tu es celui qui a été promis des siècles auparavant. Tu es celui, eh bien, que nous attendions. C'est toi le Messie, c'est toi le Christ. Et il ajoute, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, enfin de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang, comme je l'ai dit, ce n'est pas ta puissance cérébrale, ce n'est pas ton intelligence, ta connaissance religieuse, ce n'est pas tes capacités intellectuelles ou autres qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Et le Seigneur d'ajouter, et moi, je te dis, c'est moi qui te dis, oh formidable, vous voyez l'insistance, et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros, puisqu'il y a un jeu de mots entre Pétros, le nom de Pierre, et Petra, qui veut dire petite pierre ou rocher. Voyez, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du Hadès ou du séjour des morts, je reviendrai là-dessus, ne prévaudront pas, ne l'emporteront pas sur l'Église, ne prévaudront pas contre elle. Voilà une parole bien connue du Seigneur. Une parole qui souligne de manière claire, de manière évidente, mes amis, toute l'importance que revêt l'Église aux yeux du Seigneur. C'est son Église, alléluia. En effet, nous voyons dans cette parole que le Seigneur promet de bâtir cette église, son église. Mon église, dit-il, autant dire sur ce passage de Matthieu 16 et 18, je bâtirai mon église et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Le contenu de ces passages est riche, mes amis, en enseignement spirituel et en révélation concernant Jésus, le Seigneur, concernant son Église, concernant la relation particulière, singulière et intime que le Seigneur a avec son Église. Mais dans cette déclaration, le Seigneur nous révèle également le contexte dans lequel la construction de l'Église, de son Église, se ferait, c'est-à-dire un contexte de guerre spirituelle. Ne l'oublions pas, et je reviendrai là-dessus. Un contexte d'affrontement, de confrontation avec les puissances des ténèbres, avec les hôtes de l'enfer. Et en même temps, dans ce seul passage, le Seigneur met en évidence une vérité extraordinaire, comme tant d'autres du reste. Eh bien, il dit, il proclame, il déclare que l'Église l'emportera. Oh, alléluia. Il montre par là le triomphe de l'Église face à ses adversaires. Il y aura la guerre. L'Église sera confrontée à toutes sortes de vents contraires, à toutes sortes de forces du mal, mais l'Église finira par triompher. Car son Église, c'est sa maison. Alors il n'y a aucun ouragan des ténèbres qui pourrait faire tomber sa maison. Son Église, c'est son corps. Alors il n'y a aucune maladie spirituelle qui peut détruire son corps. Il n'y a aucun esprit démoniaque. Aucune principauté des ténèbres, même pas le diable, tout l'enfer peut se mettre ensemble, mais ils n'arriveront jamais. Je dis bien, ils n'arriveront jamais. Ils pourront faire appel à tous les grands sorciers du monde, mais ils ne pourront jamais, mais alors jamais, vaincre l'Église de Jésus-Christ. L'Église est condamnée à la victoire, car en son maître Jésus-Christ, l'Église est plus que triomphante. Alléluia. Amen. Oui, Jésus, le roi des rois, très rapidement, celui par qui, pour qui et de qui sont toutes choses, a promis de bâtir son Église, et croyez-moi, il est en train de la bâtir, il est en train de construire son Église, cette Église dont il est le chef, dont il est Seigneur, dont il est le possesseur, dont il est le propriétaire suprême et absolu. Lui seul, vous avez vu, il dit mon Église, n'est-ce pas? Lui seul, mes amis, peut utiliser cet adjectif possessif dans les deux sens. Mon, premier sens, c'est le sens possessif. Mon, c'est-à-dire ce qui m'appartient, n'est-ce pas? Donc de mon Église, il n'y a que lui. Aucun homme, aucun bishop, aucun évêque, aucun archevêque, aucun apôtre, aucun ange ne peut dire mon Église dans le sens possessif du terme. Un seul, Jésus de Nazareth. Lui seul est le possesseur, est le propriétaire absolu. C'est à juste titre qu'il peut dire je bâtirai mon. Le deuxième sens de cet adjectif possessif, c'est le sens affectif. Nous l'avons vu, nous l'avons lu, il a aimé son Église. C'est le mot, je dis mon épouse, je ne la possède pas, hein? C'est affectif. Et vous, je peux dire mon Église la borne, je ne veux pas dire que je la possède, elle n'est pas à moi. Voyez-vous, mais c'est dans le sens affectif du terme. Il y a un lien d'amour, un lien affectueux entre moi et la borne, entre la borne et moi. Voilà pourquoi je ne pourrais pas parler du mal de mon Église. Beaucoup arrivent à parler du mal de leur Église parce qu'il n'y a pas ce lien-là. Ils ne peuvent pas dire mon Église, mon assemblée. Paul pouvait dire mon Évangile. Il n'est pas dit que c'était l'Évangile de Paul, mais c'est dans le sens affectif. Il était tellement lié, il aimait tellement son Seigneur, qu'il a fini par aimer le message de son Seigneur. Le Christ a aimé l'Église. Deuxième passage, nous l'avons lu. et s'est livré lui-même pour elle, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse et sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église sainte, mais une église sans défaut. Mes amis, est-ce que le Seigneur aurait-il aimé l'église si celle-ci n'avait à ses yeux une si grande valeur, vous pensez? Se serait-il sacrifié pour elle si cette église n'avait eu, mes amis, pour lui un si grand prix? Oui, dans ce passage, une fois de plus, nous voyons que l'amour du Seigneur pour son église, ainsi que son sacrifice suprême pour elle, montre à suffisance que l'église a une grande valeur, a un grand prix, a une grande importance aux yeux du Seigneur. Et nous voyons également l'importance de l'église, avant de clore, nous voyons également l'importance de l'église dans le rôle ô combien important que Dieu lui attribue, le rôle à jouer ici-bas. Voyez-vous, il y a des choses que Dieu ne fait que par l'église et au travers de l'église. Oh, alléluia! Voyez-vous, mes amis, nous devons savoir que le but final de la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha n'était pas seulement le salut de tout être humain, n'était pas seulement le salut de l'individu, mais aussi la constitution de ce corps qu'on appelle Église, corps, structure, dont la vocation s'inscrit dans un plan qui va au-delà du visible, au-delà de l'espace et du temps. Que nous dit Éphésiens 3:10, regardez. Il est dit ceci, Éphésiens 3:10. Et ainsi, regardez bien, ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par, lisons tous ensemble, connaissent par la sagesse de Dieu dans sa grande, c'est par l'Église. Ça nous montre l'importance. Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament, au travers des patriarches, par les prophètes, etc., à travers le peuple d'Israël. Mais l'Église, qui est un peuple nouveau dans lequel nous trouvons aussi bien ceux de l'ancienne alliance qui croient en Jésus-Christ et ceux qui viennent des nations, ils ne sont plus deux peuples, c'est-à-dire les gentils et les israélites, ils sont devenus un seul peuple pour Dieu. Eh bien, c'est par cette Église-là que le monde, que les autorités spirituelles dans le lieu céleste peuvent connaître la sagesse infiniment variée du Dieu de la Bible. Cette église, donc 1 Timothée 3:15, donc Paul dit dans 1 Timothée 3:15, cette église du Dieu vivant. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui. Quand l'Église n'est plus ce qu'elle est, eh bien, la vérité n'a plus de colonne, n'a plus d'appui. La vérité, c'est le Seigneur lui-même. La vérité, c'est sa parole. Alléluia. Oui, alors Église, Bethel ou Bethaven, eh bien, à la lumière de ce que nous venons de voir très rapidement, l'Église de Jésus est le Bethel. Et Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Beth, en hébreu, veut dire maison. Vous voyez? Maison, c'est quoi ça? Et elle, c'est la forme courte d'Elohim, qu'on retrouve dans beaucoup de noms hébreux, comme Israël, ainsi de suite. Et donc, Bethel, j'ai fait exprès de l'écrire en deux mots, voyez, pour mettre en évidence que elle, voilà, elle, c'est la forme courte d'Elohim, Beth Elohim, c'est-à-dire la maison de Dieu. Voilà ce que doit être l'église du Seigneur Jésus, c'est-à-dire la maison de Dieu. Vous pouvez enlever ça. La maison de Dieu. C'est donc Jésus qui construit, qui bâtit sa maison. Alléluia. La maison de Dieu, par le Saint-Esprit, au moyen de sa parole. Et Jésus lui-même en est le fondement de cette maison. Jésus lui-même en est le cœur de cette maison. Il en est la fondation, il en est l'architecte, il en est le bâtisseur. Quid alors de nos églises aujourd'hui? Sont-elles Bethel ou alors Bethaven? Quand une église n'est pas la maison de Dieu, c'est-à-dire quand une église n'est pas Bethel, elle est malheureusement alors Bethaven. Qu'est-ce que ça veut dire? On termine par là. Bethaven. Beth, de nouveau maison. Et Haven veut dire, Bethaven veut dire maison de tromperie. Ah! Ou maison du mal. Ou maison des néants. Voilà, mes amis, ce que ça veut dire. Et malheureusement, beaucoup d'églises, sous la séduction, à cause de cet esprit d'égarement qui agit de plus en plus dans notre monde aujourd'hui, beaucoup d'églises sont devenues de véritables bêtes. Et nous verrons plus tard les caractéristiques. Les caractéristiques, les signes visibles d'une église Bethaven. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'églises qui nagent dans la tromperie, où l'esprit de mensonge est omniprésent. Des églises qui sont devenues la maison du mal, le mal moral, la corruption, la manipulation, le vol, l'arnaque. L'église de néant. Alors que s'il y a le néant, c'est qu'il n'y a pas la vie. N'est-ce pas? S'il y a le néant, c'est qu'il y a la vanité. Alors, mes amis, il est temps, encore une fois, de redonner à l'église ses lettres de noblesse. Alors implorons la grâce de Dieu, prions. Si nous voyons une église qui ne marche pas droit, des responsables d'église qui se compromettent, au lieu d'éprouver un malin plaisir, de poster leurs vidéos, les vidéos de leurs mésaventures sexuelles ou autres, s'il vous plaît, priez, pleurez, priez pour eux. Ne contribuez pas au mal. Que Dieu soit béni. Nous allons incliner nos têtes.